Les informations avec Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Le ministre de l'Éducation veut contourner la grève des correcteurs du bac en prenant en compte le contrôle continu. Les enseignants grévistes jugent cette décision illégale. Conservateurs et sociaux-démocrates se sont partagés les postes clés de l'Union européenne. Et les Verts alors, les écologistes dénoncent une coalition du vieux monde. 7 mois après la remise d'un rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain, la France travaille au retour de 26 œuvres réclamées par le Bénin. Pour l'adoption d'une loi, il va falloir attendre. Le projet de loi pour une école de la confiance est adopté. Le texte de Jean-Michel Blanquer a connu quelques aménagements, mais la mesure phare, celle de l'abaissement à 3 ans de l'âge de l'instruction obligatoire, rentrera en vigueur dès la rentrée de septembre. La réforme du bac, elle, est prévue pour 2021 et certains enseignants espéraient contraindre le gouvernement à rouvrir des négociations en refusant de saisir les notes des candidats au bac. Mais pour contourner la grève des correcteurs, le ministre a décidé de prendre en compte le contrôle continu en cas d'absence de notes. Les professeurs grévistes d'Île-de-France se sont retrouvés en AG à la Bourse du Travail à Paris pour voir quelle suite donner à leur mouvement. Hakim Kasmi y a rencontré Saïd, professeur de philosophie à Aulnay-sous-Bois. Il refuse pour l'instant de rendre 120 copies.
C'est une première parce que ça a lieu dans un climat qui est quand même très complexe, où Jean-Michel Blanquer a passé une année à refuser d'entendre tout ce qu'on lui dit. Il a passé ses réformes au forceps, la réforme du baccalauréat, la réforme du lycée, le Conseil supérieur de l'éducation dans lequel tous les membres de la communauté éducative sont représentés, parents, élèves, enseignants, syndicats. Le CSE s'est fortement prononcé contre ces réformes, il est passé en force. Et il nous a conduit à cette situation aujourd'hui qui est de son fait, c'est une situation de blocage.
Alors quand il dit que justement vous prenez les élèves en otage, qu'est-ce que vous lui répondez ?
Il n'y a pas de prise d'otage, il faut mesurer ses propos. Ce qui se passe n'aura aucune incidence sur les résultats au baccalauréat des élèves, si les règles sont bien respectées. Or, les ordres que donne aujourd'hui Jean-Michel Blanquer sont des ordres d'une parfaite illégalité. Le baccalauréat est un examen qui a lieu un certain jour pour certaines épreuves. Il est hors de question que le contrôle continu s'y substitue pour casser la mobilisation et le mouvement de grève. Donc, effectivement, ça correspond bien à la méthode Blanquer. On le voit, c'est ce qu'il appelle l'école de la confiance. En fait, c'est l'école de la méfiance envers les enseignants, envers les parents, envers les élèves. C'est une école autoritaire, c'est une école autocratique. Donc, nous la rejetons.
Maltraités, puis souvent ballottés de familles d'accueil en foyer, les enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ont plus de mal que d'autres à se construire et à trouver leur place dans la société. Le secrétaire d'État Adrien Taquet veut qu'ils deviennent des enfants comme les autres. Et à Marseille, où se tiennent les Assises nationales de la protection de l'enfance, il a dévoilé une partie des mesures qu'il compte mettre en place, les Aguillennes.
Oui, en matière de santé d'abord, alors qu'au moins un quart des enfants placés présentent un handicap psychique, la prise en charge médicale de ces troubles reste bien souvent insuffisante. Le secrétaire d'État veut donc appliquer dès l'année prochaine un bilan de santé approfondi pour les enfants placés ainsi qu'un parcours de soins coordonné entre les professionnels qui les suivent pour assurer un meilleur suivi médical. En ce qui concerne la justice, Adrien Taquet veut que les affaires complexes de la protection de l'enfance soient jugées en collégialité. Il y aura donc non plus un, mais deux juges par audience chargés de prendre les décisions ensemble. Au programme aussi une nouvelle charte pour définir clairement les droits des enfants protégés. Par ailleurs, en matière d'éducation, on rappelle qu'à peine 5% des enfants placés suivent un cursus généraliste. Ils sortent souvent très tôt du système scolaire et le décrochage est 3 fois plus courant que chez les autres enfants. Le secrétaire d'État veut donc développer un programme d'aide aux devoirs ainsi que du soutien scolaire numérique. Enfin, dernière mesure, la création de ce que le ministère appelle un album de vie, sorte de carnet de photos et de souvenirs pour que ces jeunes puissent garder des traces de leur enfance. Toutes ces mesures seront en tout cas présentées à la rentrée début octobre au plus tard, dans le cadre donc de la grande réforme de l'aide sociale à l'enfance.
Les Aguillennes. Les suicides à France Télécom entre 2007 et 2010 hantent le procès pour harcèlement moral d'anciens dirigeants de l'entreprise. Au dernier jour des plaidoiries des parties civiles, Antoine Marette, vous avez assisté à celle de maître Frédéric Benoît, qui est le conseil de la CFE-CGC et de 2 autres parties civiles.
Les prévenus ont fait passer la santé des salariés derrière des considérations économiques, alors qu'ils auraient dû faire l'inverse, estime maître Frédéric Benoît. Dans sa plaidoirie, il fustige le cynisme des anciens dirigeants de France Télécom.
Pendant 3 ans et demi, ils prétendent qu'ils n'ont jamais été informés des difficultés rencontrées par les collaborateurs sur le terrain. Évidemment qu'ils étaient informés, évidemment qu'ils avaient parfaitement connaissance de ce qui se passait, puisque c'est eux qui avaient distillé cette politique qui entraînait des situations de souffrance au travail, qui avaient imposé cette politique d'abord au top management et ensuite aux collaborateurs de proximité.
L'avocat estime que les prévenus ont déclenché un processus attentatoire à l'état de santé et à la dignité des salariés. C'est ce management qui a conduit au suicide et aux tentatives de suicide, et non pas des problèmes personnels invoqués par la défense.
La souffrance au travail, que vous soyez fort ou faible, de toute façon, ça peut entraîner une décompensation et ça peut entraîner effectivement des dépressions et ça peut conduire à ce que des victimes mettent fin à leur jour. Donc la fragilité psychologique prétendue pour certaines des victimes, c'est une forme de poursuite du harcèlement. C'est du harcèlement pour certains post-mortem. C'est une manière de rajouter de l'indécence à une situation absolument désastreuse résultant de la politique qu'ils ont menée.
Selon maître Frédéric Benoît, les prévenus n'ont rien appris de ce procès. Ils ne comprennent toujours pas ce qu'on leur reproche. Ils demandent donc au tribunal de leur envoyer un message fort de responsabilité.
Canal+ s'apprête à tailler dans ses effectifs en France, confronté à une concurrence croissante et à une érosion de ses abonnés directs sur son marché historique. Le groupe de télévision prévoit au moins 500 départs volontaires, soit près de 20% de ses effectifs hexagonaux. La contribution de la branche agricole du PIB français est en hausse de 7% en 2018. Mais si l'on regarde plus attentivement l'étude de l'INSEE publiée aujourd'hui, on constate un fléchissement du secteur agricole, Anne Lorchouin.
Si on les regarde en termes d'évolution, ces chiffres de l'agriculture française en 2018 sont plutôt encourageants. En valeur, la production agricole augmente, idem le solde des échanges extérieurs de produits agricoles. La France exporte un peu plus et importe un peu moins. Une augmentation surtout poussée par la forte hausse des productions végétales et parmi ces productions, le vin, grâce à des conditions climatiques particulièrement favorables. Et puis les céréales et les pommes de terre également. Pour ces deux productions, les conditions ont été très mauvaises, mais ce qui est rare et cher, la hausse de leurs cours est venue contrebalancer les mauvaises récoltes. Dans le domaine animal, en revanche, la valeur créée a continué de baisser, chute des prix du porc notamment et des œufs. Et puis ce qui baisse encore et toujours, c'est le nombre d'agriculteurs, signe que l'agriculture génère de la valeur, certes, mais pas d'emploi. Au total, la contribution du secteur agricole au produit intérieur brut augmente de 7%. Mais il faut rappeler que l'agriculture ne représente plus que 3,5% du PIB contre 7% dans les années 80. Il faut rappeler aussi que cette augmentation en valeur survient après un plus bas historique, l'année 2016, et qu'entre 2000 et 2018, l'excédent commercial agroalimentaire français a chuté de 45%. Bref, si la France reste la première puissance agricole européenne et la huitième mondiale, ce secteur a beaucoup souffert et il reste marqué par une instabilité devenue structurelle.
Anne Lorchouin. Ils avaient effectué une belle percée aux élections de mai. Et pourtant, les Verts sont les grands absents des postes clés des institutions européennes, à Bruxelles comme à Strasbourg. La session inaugurale du Parlement européen a donc un goût amer pour les écologistes, Rosalie Lafarge.
Un vent vert a peut-être soufflé sur les élections européennes. Le vent aurait-il depuis tourné?
Où sont les Verts?
Michel Rivasi fait partie de la délégation verte française.
Où sont les Verts à l'heure actuelle, que ce soit au niveau du Conseil, que ce soit au niveau de la Commission, au niveau du Parlement, pareil. Pour l'instant, il n'y a rien, quoi. Parce que c'est des vieilles institutions, parce que ce sont des partis politiques qui se distribuent les postes. Donc moi, je suis un peu abasourdi de l'autisme, si vous voulez, de ces dirigeants. Ils sont à côté de la plaque.
Ils sont surtout en plein déni de démocratie pour le chef de file des écologistes français au Parlement européen, Yannick Jadot.
Ils n'ont absolument pas tenu compte du scrutin du 26 mai. C'est la coalition du vieux monde. Conservateurs, socialistes, libéraux continuent à penser que, évidemment, le climat, c'est très très important, la biodiversité, c'est très très important, on en fait des grands discours, mais dès qu'il s'agit d'agir, ils sont pas là. Donc à un moment donné, il va bien falloir qu'ils rendent des comptes, il va bien falloir qu'ils en fassent un peu. Et je vous promets que la pression, le travail des Verts sera tel qu'ils seront obligés de bouger.
Même s'ils ne décrochent pas les postes clés, les Verts comptent sur leur délégation renforcée au Parlement européen, sur leurs deux vice-présidents et sur le soutien de l'opinion publique pour peser sur chaque décision. Première bataille annoncée pour les écologistes, obtenir le nom ferme des eurodéputés sur la ratification du traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur.
Rosalie Lafarge à Strasbourg pour France Culture. Vladimir Poutine a rencontré le pape François en début d'après-midi. Le président russe poursuit sa visite à Rome par un entretien avec le président du Conseil, Giuseppe Conte, et avec les deux vice-présidents Luigi Di Maio et Matteo Salvini, un exécutif italien russophile et opposé aux sanctions imposées à la Russie depuis la crise ukrainienne, Mathilde Imberti.
Une série d'entretiens au pas de course pour le président russe à Rome aujourd'hui, auprès d'interlocuteurs qui lui sont plutôt favorables, à commencer par Matteo Salvini, avec qui un dîner est prévu ce soir. Le leader de la Ligue apprécie la défense des intérêts nationaux, incarnée par Vladimir Poutine. La formation italienne est en contact depuis des années avec le parti Russie Unie. La Ligue est rejointe par les autres composantes de l'exécutif sur le dossier économique. Rome milite pour un allègement des sanctions imposées à la Russie. En son temps déjà, Matteo Renzi, de centre gauche ne soutenait que timidement le choix européen. Depuis la crise ukrainienne, les échanges commerciaux entre les deux pays ont faibli. Ils se chiffrent à 27 milliards de dollars, selon le conseiller du Kremlin, moitié moins comparé à 2014. Si le contrat de gouvernement entre la Ligue et les 5 étoiles place l'atténuation des sanctions économiques parmi les politiques à mettre en œuvre, l'Italie reste encore à ce stade dans le giron européen et en juin dernier, l'Union européenne à l'unanimité a reconduit ces mesures.
Mathilde Imberti, correspondante de France Culture à Rome. Ensemble contre la peine de mort et le collectif des Familles Unies veulent alerter l'opinion sur la situation des djihadistes français jugés et condamnés à mort le 3 juin sur le sol irakien. La réalité est plus complexe qu'il n'y paraît. Voilà ce qu'ils essayent d'expliquer, Capucine Jaffé.
Ils sont 11 Français condamnés en Irak à la peine capitale. Une sentence contraire aux engagements de la France pour Raphaël Chenouillazan de Ensemble contre la peine de mort. Ils s'inquiètent du sort des djihadistes.
L'abolition de la peine de mort, ce n'est pas que quand il y a des cas avérés d'innocence. Et je vous le rappelle, il fait chaque année, l'Irak est un des 5 plus grands pays exécuteurs dans le monde. C'est quand même pas un pays neutre. On me dit qu'ils ne seront certainement pas exécutés. Moi, je ne veux pas attendre que cette vérité ne soit plus vraie.
Des exécutions et des conditions de détention terribles, c'est ce que dénonce Véronique Roy du collectif des Familles Unies.
On sait qu'ils sont très nombreux par cellule, qu'ils ont été torturés avant au moment des transferts et pendant au moment des aveux. Bon, voilà, ce sont des moyens employés qui trafiquent la vérité.
Une situation que connaît bien Jamel Kouraghi. Son fils fait partie des 11 condamnés à mort en Irak.
Il m'a bien confirmé que là-bas, il avait été torturé par électrocution. Je souhaite que mon fils fasse sa peine en France parce qu'en Irak, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Je demande à Mme Belloubet et à M. Le Drian si c'était vos enfants, au bout de combien de temps, eux seraient revenus.
La France, qui suit ce dossier de très près, dit être intervenue au plus haut niveau de l'État irakien pour commuer les peines capitales en prison à perpétuité.
Le ministre de la Culture confirme la future restitution au Bénin de 26 bronzes exposés au Quai Branly. 26 œuvres rapportées en 1892 en France par le général Alfred Dodds après la campagne du Dahomey. Cette restitution doit passer par le vote d'une loi dont le calendrier reste à préciser et cela suppose une refonte de la coopération culturelle entre la France et les pays qu'elle a colonisés. Mathieu Laurent a rencontré le directeur de l'Agence nationale de promotion du patrimoine, José Plia, cheville ouvrière de la restitution de ces œuvres béninoises.
Notre richesse au Bénin, un pays pauvre, c'est la culture, c'est les patrimoines et c'est surtout les patrimoines immatériels. Le vaudou, l'histoire de l'esclavage, les chants, les danses et puis cette formidable histoire des rois d'Abomey qui ont généré, comme dans tous les royaumes, une richesse culturelle, artistique, mais toujours sacrée. Ces objets qui nous sont restitués aujourd'hui sont des objets sacrés. Donc il y a pour nous, de notre côté, ce devoir de recréer les conditions de leur resacralisation. Voilà, ce n'est pas simplement nous les rendre. C'est pour ça que quand les gens disent « on vous les rend immédiatement, prenez-les », oui, mais il y a les conditions de conservation, techniques, géothermiques, etc. Mais il y a aussi les conditions spirituelles de retour de ces œuvres. Et je le dis d'autant plus qu'il ne faut jamais oublier que ces œuvres ont été prises dans le royaume d'Abomey. Le royaume d'Abomey qui, à l'époque, avant que les colons arrivent, était le premier colonisateur des autres royaumes. Ces objets qui vont revenir ne sont pas facteurs évidents de réconciliation pour tous les Béninois. Il n'y a pas eu de repentance ou de pardon entre Béninois, entre Abomeyens, etc. Donc, on veut faire, nous, au Bénin, de ces objets de leur retour, un vrai ferment de réconciliation, de pardon entre soi, déjà.
Il y a évidemment, et vous êtes bien placé pour le mesurer, l'apprécier et le recevoir aussi, des réticences de la part des directeurs de musées occidentaux qui vont voir leur collection subitement amputée de joyaux.
Vous savez, il y a une chose qui est formidable, c'est l'identité d'une œuvre, comment elles ont été créées dans des conditions très spécifiques, spirituelles, fortes, culturelles, identitaires. Elles ont voyagé, elles sont aussi fortes de ce qu'elles ont vécu ici. Ce patrimoine est inscrit dans leur ADN.
Qu'est-ce qu'elles hébergent?
Et voilà, c'est tout ça que nous sommes en train d'interroger. Ce ne sont plus des œuvres exclusivement béninoises.
Si elles étaient médiatrices.
Elles sont médiatrices, exactement. Et nous avons dit, attention, ce bébé que vous avez hébergé, nous le reprenons, mais nous vous le repartagerons. Nous serons dans cette circulation-là.
José Plia, qui a œuvré à la restitution de 26 bronzes au Bénin. Demain vendredi, le temps sera mitigé et incertain sur la façade atlantique. Ailleurs, grand soleil. Les températures minimales iront de 11 à 25 du nord au sud. L'après-midi, il fera 22 à 34 sur la moitié nord. Plus au sud, 34 à 38. Localement, 40 dans le Gard. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.